Nous allons attaquer maintenant, je dirais, les dernières questions. Il en reste cinq. Donc, je vais attaquer sur la sexualité. J'ai David et Patrick. Je voulais savoir comment je peux me défaire de mes pulsions et désirs sexuels qui ne cessent de m'envahir à chaque fois que je rencontre ou vois une femme. Bah, c'est simple. Si ton corps te pousse, c'est que bah, y a du retard. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'ascensionner demande obligatoirement aux énergies de partir du bas, on va dire, du premier chakra, puis du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, etc. Donc, concrètement parlant, bah, quand je dis passe au deuxième, s'il y avait des petits désirs qui n'étaient pas réalisés, ou même même pas des projections, je ne parle pas même pas de fantasmes. C'est-à-dire que si en toi quelque chose n'a pas été suffisamment fait ou quoi que ce soit, eh bien automatiquement ça sera amplifié. Donc quand ça passe au niveau du deuxième chakra, bah, ça fait partie du processus d'élévation de fréquence, quelque part, c'est sûr que les demoiselles, ça chauffe. Enfin, même chez les demoiselles, ça chauffe, hein. Les hormones, ça chauffe chez tout le monde. Donc c'est un passage, je dirais presque obligé, et là c'est à chacun de gérer sa façon de le faire. La première façon, c'est se dire, ben, puisque ça chauffe, je vais aller libérer. Ok, d'accord. Hein, et là, il faut être transparent par rapport à ça, puisque il y a de fortes chances que les personnes en face de toi aient les mêmes symptômes. Donc, pourquoi pas, hein, et c'est, je ne vois pas en quoi il faut, comment dire, restreindre ou retenir ces énergies. Je ne vois pas en quoi, quand c'est fait avec respect. Quand c'est fait avec, je dirais, avec du véritable amour. Je dirais même que c'est un accélérateur. Hein? Si par contre, la demoiselle en face, ça veut pas jouer, ça joue pas. Et c'est à toi, à ce moment-là, de voir comment tu peux transmuter. Alors, les dames adorent ça, dire, ouais, transmuter. Alors, les dames, il y a beaucoup, ils arrivent à transmuter. Mais alors, les mecs, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Donc, à eux de gérer la chose. Mais de toute façon, la seule chose que je puisse dire à ce niveau-là, c'est que plus tu vas en faire un problème, plus ça va devenir important à tes yeux et plus ça va être un blocage. Donc, comme dirait l'autre, c'est chacun se démerde comme il peut. Donc, si il n'y a pas de possibilité de passer par le plan physique pour libérer la chose, essaye de le passer par un plan plus énergétique, plus intérieur, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident du tout pour les hommes. Pour les femmes, c'est plus facile. Et bien qu'il y ait des femmes qui aimeraient quand même passer à l'action. Mais c'est un ensemble, c'est à chacun de gérer, on va dire ça, dans son unicité. Mais il faut savoir que c'est inévitable d'une manière ou d'une autre dans le processus de l'ascension, qu'arrive un moment, on a les hormones qui chauffent. Alors, à chacun de régler sa problématique à son niveau personnel. Je dirais de trouver la personne ou la compagne qui a bien envie de le suivre sur ce chemin-là. Alors bien sûr, ça doit être un jeu non dépendant l'un de l'autre, on est d'accord, mais qui est fait en plein respect de l'unicité de chacun. Je ne vois pas en quoi il est interdit d'avoir des relations sexuelles. À part le pape et tous ces sbires qui racontent qu'il ne faut pas, je ne vois pas qui d'autre. Hein. Hein, donc, à vous de voir où vous en êtes dans vos croyances. Car, comme dirait l'autre, si vous êtes bien dans votre peau parce que vous êtes libéré, c'est toujours mieux que de dire non, non, faut pas faire et que vous êtes vraiment pas bien dans votre peau. Regardez, qu'est-ce qui est capable de maintenir votre paix intérieure et une fréquence élevée? Est-ce que c'est la culpabilité ou pas? Voilà, donc pour David et Patrick, à vous de voir et toutes les personnes qui sont concernées, bien sûr. Concernant l'intra-terre, une question de Fabien. En ce moment, je lis un document dont le titre est Humanité en devenir et qui parle de l'intra-terre. Il y est fait mention de fonctionnement structure géodésique de 24 unités vivantes. Peux-tu me dire à quoi ça correspond? Eh ben non. Non, parce que tout simplement, il est dit dans ce livre que ces unités se formeront d'elles-mêmes. Et si elles se forment d'elles-mêmes, c'est parce qu'il y a une musique derrière. Hein? Donc la musique est basée toujours sur le 12, hein? Hein? C'est un chiffre clé Hein, donc 2 fois 24, et donc, enfin 2 fois 12, et donc 24, il y a 24 dimensions, etc., etc., etc. Donc je ne veux pas aller là-dedans parce que ça ne sert à rien d'y penser, puisque c'est dans un futur proche, on est d'accord, pour nous. Et donc ce qui est déjà vécu par nos frères intraterrestres, c'est déjà un futur par rapport à nous. Donc quand on y sera prêt, bah, on verra. L'essentiel, comme dirait l'autre, eh bien, c'est que quand ça se fera, on comprendra peut-être mieux les rouages, mais que pour l'instant, ça sert absolument à rien d'en discuter. Une question de Nel sur les extraterrestres. Puisque les ETs ne viendront pas nous sauver d'un éventuel chambardement, que font ces millions de vaisseaux en orbite autour de la Terre et les immenses vaisseaux-mères autour du Soleil? Alors, bon, les millions de vaisseaux, ça, j'en sais rien, je ne les ai pas comptés, hein, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne les ai jamais vus, personnellement. Hein. Alors, les immenses vaisseaux-mères autour du Soleil, il y en a peut-être, mais bon, ce n'est pas mon problème non plus. Et donc, quand il y a des cris, puisque les ETs ne viendront pas nous sauver d'un éventuel chambardement, c'est-à-dire que c'était la première option qui était par rapport à la fin de la 3D. C'est-à-dire que si vraiment ça allait se barrer en couille, il fallait sauver les lampadaires possibles pour, comme dirait l'autre, réimplantation ultérieure. Et ce scénario maintenant est dépassé. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lampadaires sur Terre pour faire que l'humanité puisse ascensionner. Sans qu'il y ait plus le problème de l'extinction, on va dire, finale de cette humanité. Donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces millions de vaisseaux, comme tu dis, eh bien, ils ont tous un travail particulier à faire. Car s'ils sont dans l'invisible, en termes de 4D, 5D, 6D, etc., c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, c'est qu'ils font aussi un travail. Car leur simple présence suffit à élever la fréquence de l'humanité. Donc quand des êtres vivants qui sont de 5D, 6D, 7D, voire plus, se baladent dans un vaisseau spatial qui est au-dessus, qui est dans notre atmosphère, eh bien ça influence l'atmosphère. Donc ils ne sont pas là plus forcément pour nous sauver nos carcasses, mais pour aider rien que par leur simple présence. Et l'attention qu'ils ont par rapport à nous suffit à nous donner cette impulsion suffisante afin qu'on dépasse nos propres limites de l'ignorance qu'on traîne lourdement avec nous. Voilà. Et comme il y a un certain nombre de réactions aussi, hein, c'est-à-dire qu'on voit que Papa Soleil a envie d'embrasser Maman Orantia de plus en plus fort, eh bien, il peut y avoir des débordements, comme on dit, puisque faut savoir que l'atmosphère de la Terre est directement proportionnelle à l'état d'humeur de l'humanité. Donc ça veut dire que si d'un seul coup nous venions à, comment dire, à devenir plus transparents et moins résistants, ben peut-être que l'étreinte de papa sera peut-être un peu forte et on va peut-être avoir les carcasses qui vont griller. Donc d'une certaine manière, s'il y a des vaisseaux-mères près du Soleil, c'est aussi pour prévenir d'un éventuellement dérapement temporel, on va dire. Hein. C'est-à-dire que c'est comme un circuit électrique, quoi. On sait que le fusil peut péter à n'importe quel moment, et s'il pète, on va avoir un problème lourd, hein, de surcharge quelque part qui fera que le transfo va péter. Donc, ils sont là, pour des raisons, on va dire, de sécurité. Ils sont en observateur, et si quelque chose devait se passer d'une manière, je dirais, imprévisible, hein, puisque les rayons du soleil mettent à peu près 3 jours pour venir sur Terre, eh bien, ça serait peut-être suffisant si il devait y avoir une trop grosse embrassade de papa vers maman, un bisou un peu trop, on va dire, costaud. Eh bien, à ce moment-là, avant que ces rayons n'arrivent sur la Terre, eh bien, à ce moment-là, il y aurait la possibilité, bien sûr, de sauver un maximum de gens, c'est-à-dire, éventuellement, bien sûr, de les transporter dans un autre espace-temps, ou de les mettre sur les vaisseaux, si tu veux. Donc, il y a plusieurs raisons à leur présence, et ce sont simplement des grands frères. Moi, j'appelle ça les sages-femmes. Elles sont là pour voir si l'accouchement se passe bien. Et s'il y a un problème, eh bien, ils réagiront en conséquence. Mais ils regardent d'abord ce qui se passe parce que le processus naturel de l'accouchement doit se faire sans intervention. Et puis, s'il y a besoin, comme dirait l'autre, d'une césarienne, eh bien, à ce moment-là, ils interviendront. Alors, une question de Dominique. Sur le gardien du seuil, j'aimerais avoir des infos à propos du sas de l'ascension. J'ai bien compris que la seule véritable lumière sera notre passeport. Mais supposons, vu mon âge, que je sois dans la tranche des personnes qui mourront physiquement. Quand on passe le tunnel et qu'on voit des êtres de notre famille, par exemple, ne doit-on pas aller vers eux? Comment reconnaître la lumière des lumières, la lumière de l'esprit? Parce que j'imagine aisément que nous devons avoir des tas de visions. Alors Dominique, tu as parfaitement raison. Il y a des tas de visions et toutes ces tas de visions seront directement proportionnelles à ce que nous avons dans le crâne et de toutes les projections que nous avons. Car ce sont nos projections que nous allons voir. Donc si tu vois des éléments, comme tu dis, de ta famille, je comprends indirectement que ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes gosses, ou ton grand-père, ou ton père, ou etc., dis-toi bien que c'est va être plaisant de taper la causante avec eux, mais ça va être une arnaque. Puisque ta véritable famille, elle est, comme dirait l'autre, au cran au-dessus. Hein, c'est-à-dire que en tant qu'entité, c'est les entités qu'il faut aller voir et non pas l'enveloppe des entités. Donc quand tu seras dans le sas de l'ascension, on te montrera ton père ou ta mère ou je sais ou ta femme, enfin quelqu'un que tu as beaucoup aimé, et en fait c'est pour t'induire bien sûr dans cette erreur. Donc de te sortir du véritable canal. Parce que dis-toi bien que ce qu'a été ton père ou ta mère ou ta femme ou tout ça, eh bien ce n'était qu'un truc temporaire. Parce que tu es éternel. Donc même si, on va dire, tu as connu ton père pendant, on va dire, 30 ans, qu'est-ce que 30 ans par rapport à l'éternité? Donc il faut pas tomber dans l'illusion, et c'est le but du sas. C'est de voir si tu es plus fort que tes illusions, hein, et donc aussi plus fort que tous les liens affectifs. Que tu as en toi et qui font partie de cette expérience pratiquement illusoire. Parce que nous sommes dans une illusion géante. Mais il faut en sortir. Et donc, le but, c'est bien sûr de ne pas retomber dedans. Hein? Une question de Claire. J'ai vu plusieurs fois une lune derrière la lune, orangée légèrement décalée en dessous. Une idée de ce que c'est? Eh bien, la réponse se trouve sur Internet. Alors, je ne sais plus, moi je connais plus les noms, etc. C'est-à-dire que c'est un autre objet volant, on va dire, une autre planète. Alors, il y en a qui parlent de Nibiru, enfin bon, il y a un peu de tout ça, avec des photos à l'appui, tout ça. Donc, ce que tu as vu était effectivement réel. Tout simplement, maintenant, il se trimballe un certain nombre de choses par rapport à tout ça. Et j'avouerai que je baigne pas du tout là-dedans. Donc je pourrais pas t'en dire plus, mais je sais que sur Internet, il y en a qui se sont donné un maximum là-dessus. Alors, dernière question, une question de Fabien sur le rêve lucide. Qu'est-ce que le rêve lucide? Waouh! La grande question. Alors, un rêve, c'est par définition quelque chose qui se passe dans une autre dimension, hein, c'est-à-dire que tu ne l'associes pas à la 3D. Et deuxièmement, lucide, ça veut dire que tu as les yeux ouverts et tu sais ce qui est en train de se passer. Alors, qu'est-ce qu'un rêve lucide? C'est les deux, c'est-à-dire que tu es conscient pleinement de tout ce qui se passe dans une autre dimension. J'espère avoir répondu correctement à ça. Le rêve lucide, c'est que tu vis dans une autre dimension. Et ces rêves lucides, tu vas le faire principalement quand tu vas dormir. Et donc ça, c'est un phénomène dit de 6D. Hein? Le rêve lucide, c'est de la 6D. Et tu verras que des fois, c'est tellement lucide que tu ne sais plus si tu es en 3D. Donc, il y a des fois, quand tu reviens en ce monde, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle, c'est tu te réveilles et tu dis, attends, là, je suis en 3D, je suis où là? Parce que même ce monde de 3D te semblera un rêve. Parce que l'autre rêve que tu as fait avant était encore plus réel que la vie que tu as dans cette vie. Donc, des fois, on peut devenir fou à ce jeu-là, mais il y a toujours des trucs qui clochent quelque part. Et donc, ce qui m'a permis, moi, personnellement, de ne pas tomber dans pas dans l'arnaque, mais dans la problématique de ne plus être de ce monde, entre guillemets, de 3D, c'est qu'il y avait dans mes rêves extra-lucides, on va dire, je voyais mes enfants, hein, ils raisonnaient comme ils raisonnent maintenant, hein, c'est-à-dire comment des gamins qui ont 30 balais, qui te répondent avec la mentalité de gamin de 30 balais, et simplement quand je les regardais, ils avaient l'image des mecs qui avaient 5, 6 ou 7 ans, quoi. Donc il y avait un décalage entre l'image et le son, comme on dit. Donc je savais que parce qu'il y avait ce décalage entre l'image et le son, que j'étais en 6D ou ailleurs, mais que j'étais pas en 3D, parce qu'en 3D, je sais quelle tête ils ont. Voilà, donc il y a des petits détails comme ça, mais sur le moment, on ne remarque pas qu'ils ont le look de gamin de 5 ans ou de 6 ans. Hein. Pas du tout. Tu discutes comme tu discutais en 3D, quoi. Il n'y a aucune différence. Et puis c'est seulement quand tu travailles, tu dis, mais attends, là, oh, ils avaient quelle image là? C'est là que tu te rends compte que tu étais dans un autre monde. Tout aussi vivant. Hein. Et même plus vivant, il y a des fois, beaucoup plus réaliste. Bien, voilà, j'ai répondu donc à toutes les questions que Brigitte a bien voulu mettre dans mon document. Et je vous dis donc, alors, bon allez, petite question de l'INSEE 971, des conseils pour boire une eau pure et positive. Alors d'abord, une eau pure, ça n'existe pas, et positive, j'en sais rien du tout. Non, disons qu'il peut y avoir simplement une eau moins polluée, ça c'est clair, et quand on dit positive, ça veut dire qu'elle n'est pas polluée aussi négativement. Parce que souvent, quand on regarde l'eau, vous pouvez le regarder sur le point de vue chimique, hein, c'est-à-dire savoir s'il y a des saloperies dedans, etc., etc. Donc ça, c'est la pollution dans le sens pur. Et positive, c'est que le son, enfin, l'eau a aussi un son, hein, une vibration. Et donc c'est en cela que on peut dire positive ou pas. Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est que tous les traitements infligés à l'eau par l'homme en règle générale, dans toutes ces stations de traitement, cassent le son de l'eau. Donc si chimiquement elles sont pures, leur sonorité ne l'est pas, ne l'est plus. C'est un peu à l'image du courant électrique que vous avez à la maison. À la maison, on dit, ouais, vous avez 220 volts, tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons qui ont été fabriqués par la centrale nucléaire ou par la turbine, eh bien, sont dans un effet aléatoire. C'est-à-dire que le son n'y est plus, il n'y a aucune cohérence. Et donc, nous vivons donc dans des maisons qui sont alimentées électromagnétiquement par des incohérences totales. Donc, bien sûr, on ne les voit pas. Alors, on dit, ouais, c'est du 50 Hz. On est d'accord, ça, c'est à quelle vitesse on nous envoie les incohérences, mais les incohérences sont dedans. Et donc, s'ils étaient cohérents, on appellerait ça des lasers. C'est-à-dire que, grosso modo, eh bien, ce courant électrique ne serait plus dans des fils électriques, mais ce serait sous forme de lumière, déjà. Ça serait déjà autre chose. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que, à travers cette notion d'eau pure et positive, il y a deux notions à comprendre, une notion chimique et une notion ondulatoire. Et donc cette notion ondulatoire est très difficile à choper pour beaucoup de gens. On est d'accord. Et c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas très porté vers toutes les manipulations électromagnétiques de l'eau. Alors il y en a qui achètent des machines, qui disent ouais, on fait un truc comme ci, et puis bon, ça passe, ça fait des pulsations, ça fait ceci, ça fait cela. Très bien. Mais moi, je suis pas du tout partant pour manipuler électromagnétiquement l'eau. Donc, je préfère une eau, effectivement, qui ne soit pas manipulée déjà de ce côté-là, par quels que soient les éléments électroniques. Et deuxièmement, dès que l'eau sort du robinet, merci, c'est pas pour moi. C'est fait pour faire la vaisselle, laver le linge, les toilettes, mais ça ne sera pas fait pour que je la boive. Donc, je boirai toujours, si possible, une eau qui n'est pas passée, je dirais, dans un système électronique ou de traitement. Alors, on va me poser la question, ça c'est sûr. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'achète de l'eau pour l'instant en bouteille. Alors, on me dit, oui, mais il y a le plastique, etc. J'ai dit, d'accord, très bien. J'achète de l'eau en bouteille, la moins chère possible. Il me dit, oui, mais il y a des traitements. Mais d'accord. De toute façon, vu le prix qu'elle est payée, il ne doit pas y avoir beaucoup de traitements parce que ça coûte cher les traitements. Déjà. Et puis deuxièmement, j'ai acheté un petit appareil qui fait une filtration, je veux dire c'est un filtre en céramique, tu mets l'eau, puis ça filtre, point barre. Ça veut dire que tout ce qui est chimique ne peut pas passer, tout ce qui est microbien ne passe pas, tout ce qui est métaux lourds ne passe pas. Et la meilleure eau qu'on puisse mettre dedans, bah, c'est l'eau de pluie. Parce que l'eau de pluie, tu es sûr qu'il n'y aura aucun truc phytosanitaire, qu'il n'y aura aucune bactérie, qu'il n'y aura aucun métal lourd, pratiquement. Donc l'eau la plus pure que tu puisses boire, c'est de l'eau de pluie que tu auras filtrée céramiquement par là. Voilà, enfin, pour moi, aujourd'hui, l'eau qui serait la plus pure. Alors maintenant, quand on se dit, ouais, il y a l'eau de pluie, mais elle baigne dans tous les champs électromagnétiques envoyés par tous les téléphones cellulaires, par toutes les... Ouais, d'accord. Bah alors, si on veut vraiment une eau pure et positive, alors qu'est-ce qu'il faut boire? Bah, rien du tout. La meilleure façon de boire une eau qui est impeccable, c'est de ne pas en boire. Donc, tant que vous ne serez pas capable de ne plus boire d'eau, bah, vous serez obligé de boire de l'eau qui, de toute façon, sera polluée d'une manière ou d'une autre. Après, bah, c'est la quantité de pollution qui vous semblera acceptable par rapport à votre vibration. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là-dessus et puis je vais vous souhaiter un bon week-end pour ce qu'il en reste. Et donc à la prochaine webconférence. Merci, au revoir.